Bref, on l'appelle comme ça pour l'instant, là, Madame Résistante, mais j'aimerais savoir si on peut quand même la nommer. Faut pas qu'elle ait peur de se prénommer, non et non. Madame Résistante, hey!
Oui, voilà, je suis là.
Bon, ça va?
Oui.
Bon, prénom et nom, s'il vous plaît.
Oh, ça me dérange pas de me nommer, vous savez, hein, j'ai pas peur, hein.
Certainement.
Mathieu Myriam, oui, Mathieu Myriam, vous savez, au point où on en est, hein.
Racontez-moi comment tout cela a débuté. Louis l'a fait, Louis Ripoll l'a fait. À vous de le faire à maintenant et donnez-nous bien sûr les détails, s'il vous plaît. On vous écoute, Madame Mathieu.
Oui, voilà, donc lorsque j'ai demandé le divorce pour violence conjugale sur conseil des médecins qui me disaient que j'étais victime d'un pervers mental, hein, donc c'est eux qui m'ont appris ce terme. Ils m'ont dit que mon bébé et moi, nous étions en danger. Je n'ai été mariée que 19 mois. Le 12 juin 2001, donc 2 mois après ma demande en divorce et ma première plainte pour violence conjugale,
okay.
Il y avait quand même pas mal de certificats médicaux, hein,
ouais.
Déjà, depuis plusieurs mois, je reçois la visite surprise d'un commandant de police à mon domicile avec une témoin, une ADS, et qui se prénommait comme moi d'ailleurs. Il me menace donc de m'enlever mon bébé par un juge de ses connaissances du tribunal dont je dépends, donc de mon département, si je poursuivais mes plaintes pour violence conjugale contre un officier de police. Voilà. Il m'a remis sa carte de visite. 3 jours après, mon avocate de divorce dénonçait au procureur dans 3 pages. Donc depuis, ce commandant a été muté par l'IGPN, on me l'a appris officieusement. Il avait d'autres affaires, assez louches auxquelles il avait participé, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, je crois que mon affaire a été une de plus. Je ne sais même pas s'il fait encore partie de la police.
Là, vous me dites que vous ne savez pas s'il fait encore partie de la police?
Oui, oui, oui. Je ne sais plus si on m'a dit qu'il en faisait encore partie ou pas. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a renseigné récemment encore sur lui. Mais ça n'a pas grande importance, vous savez. Parce que, de toute manière, les menaces ont été appliquées. Il y a eu donc, après la condamnation de mon agresseur en septembre 2001, un point rencontre qui a été désigné pendant 3 ans. Donc bien sûr, j'avais la garde de mon enfant, il fallait la protéger d'un père dangereux. Je l'avais toujours protégée déjà bébé, tout le monde le savait. Moi, j'étais seule victime de violence à ce moment-là. Il s'est trahi donc devant les policiers en juin 2001. Il
oui.
m'a violemment battue avec le bébé dans les bras. Donc là, tout le monde a vu que tout était vrai, que mes certificats médicaux étaient vrais. Je suis encore retournée à l'hôpital le soir même après les coups. Et il y a eu 8 jours d'ITT et un rapport policier à leur hiérarchie. Donc l'ensemble de ces certificats médicaux et de ces preuves ont abouti à une condamnation à 4 mois de prison avec sursis et des dommages-intérêts qui ont été augmentés ensuite par la cour d'appel. Donc ça, c'était le 25 septembre 2003, hein, je m'en rappelle. Ensuite, il y a eu, entre-temps, je veux dire, il y a
oui.
eu une récidive de violence qui n'a jamais été vraiment jugée puisque le dossier a disparu. Et depuis, les dossiers disparaissent mystérieusement. Donc autant les violences sur moi-même que sur mon enfant, parce que mon enfant a pris le relais à partir de mai 2004, quand elle m'a été enlevée brutalement du jour au lendemain. Eh bien, c'est mon enfant qui est victime aujourd'hui de violence, et nous faisons tout pour la sauver. Et je peux vous dire que heureusement que j'ai connu Monsieur Ripoll, parce que je crois que s'il n'était pas là, je serais aujourd'hui peut-être à l'hôpital ou bien morte. Parce que c'est lui qui m'a soutenue jusqu'à 13 ans. C'est lui la personne principale, je peux dire, parce que les avocats nous ont abandonnés les uns après les autres. Donc on a eu un certain nombre d'avocats et apparemment il y aurait des pressions. Voilà, c'est tout ce que je
est-ce
peux vous
qu'il
dire.
A, est-ce qu'il a déjà frappé votre fille, Myriam?
Bien sûr, donc c'est elle qui racontait, même sans que je le sache au début. Elle
oh.
se plaignait donc à l'école. À l'école, hein,
oh.
je
oh.
dis bien.
Oh.
Hein.
Il l'est. Ok, d'accord.
Oui, puisque je ne la voyais plus hein, du jour au lendemain, donc moi je me suis jamais mise en tort. Ils font tout pour me coincer, mais je me suis malheureusement jamais mise en tort, hein, aux dépens de mon enfant, parce que je pense aujourd'hui que j'aurais dû me mettre en tort. Hein. Là, finalement, je suis coupable de non-assistance à mineur en danger, on pourrait dire ça. Hein? Donc, je croyais que la justice s'apercevrait de son erreur, mais maintenant, ça fait 3 ans qu'on attend. Ça fait plus de 3 ans, puisqu'on est au mois de septembre. Donc, au début, effectivement, elle se plaignait auprès de ses petits camarades et qui le répétaient à leurs parents. J'ai eu des témoignages de parents, des témoignages de l'institutrice. Ensuite, il y a eu un signalement de l'école et plusieurs autres signalements qui ont suivi d'une autre école où monsieur avait placé mon enfant. Donc, du matin au soir, alors qu'il y avait la maternelle, le CP, un petit enfant normalement a besoin de sa mère à cet âge-là et ne devrait pas comme ça être élevé par le personnel scolaire. Et apparemment, il y a aussi des inconnus qui venaient la chercher à la sortie de l'école. Elle ne les connaissait même pas. Et c'était monsieur qui disait au juge qu'il avait beaucoup d'amis pour s'occuper de son enfant à sa place. C'est ce qu'il a dit dans une audience de juge d'enfant, donc devant moi. Hein. C'est pour ça que je vous le répète. Et effectivement, j'ai vu mon enfant gardé à droite à gauche, donc peut-être mis en danger quelquefois. Avec tout ce qui se passe, hein, tout ce qu'on entend. Donc moi, j'étais pas rassurée. Et en plus, elle se plaignait vraiment de coups sur la tête dès le départ, de la part de son père.
Je tiens Myriam, je tiens aussi à rassurer les auditeurs que j'ai vu les papiers en question.
Je les ai vus, les papiers en question.
Sinon, je vous le dis tout de suite, n'aurais pas laissé passer une entrevue comme celle-là. J'ai vu quel point l'individu est un grand malade. Et un enfant de putain qu'on pourrait justement tabasser à grands coups de poing sur la gueule. Mais bon, trêve de violence justement. J'aimerais savoir sur le plan sécurité financière, comment ça se passe de votre côté, Myriam?
Sécurité financière, ben écoutez, il y a des violences conjugales économiques, comme ils appellent ça ici en France. Hein.
D'accord.
Donc il y a des beaux dossiers faits par la délégation aux droits des femmes. Bon, on m'a envoyé des brochures et effectivement, les violences économiques sont reconnues et c'est la suite des violences conjugales physiques. Hein. Donc moi, je suis en même temps victime de ça, c'est-à-dire que je suis victime de vol direct sur mon compte, de procédures de saisie. Aujourd'hui, eh bien, on me saisit le peu d'allocations que j'ai pour payer un emprunt immobilier à la place de monsieur parce qu'il m'a fait couper mes pensions alimentaires en échange de s'engager à payer l'emprunt à lui tout seul. Et ça, c'était une combine, c'était une entourloupe, comme a marqué l'expert dans son expertise, hein, une entourloupe financière. Il a dupé les juges, encore une fois. Au bout de quelques mois, il ne payait plus rien. Donc, j'ai réussi à obtenir une petite allocation logement et même ça, il me la vole actuellement. Il a fait une saisie sur la caisse d'allocation familiale. Donc c'est vraiment un scandale. Tout est fait pour me détruire sur tous les plans. Et avec le harcèlement de convocation dont je suis victime, en fait, je ne peux même pas rechercher un emploi ou refaire ma vie parce que je passe mon temps à me défendre. Donc là, on rentre, par exemple, on rentre de vacances avec mon enfant de province. Hein, d'ailleurs, on était en province où on a vu des policiers. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et je reçois à nouveau des convocations des policiers ici. Une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des violences conjugales dont le dossier avait disparu en 2001. Donc vous voyez l'acharnement de monsieur contre moi. Hein. C'est un dossier où il y avait une hospitalisation, des ITT de 8 jours complétés de 4 jours. Il y a eu plusieurs médecins qui sont intervenus dans mon dossier et qui ont témoigné de graves violences. J'ai été hospitalisée ensuite et mon enfant aussi d'ailleurs. Hein. En même temps, l'agresseur m'a volé un appareil,
Myriam,
et le caméscope, il avait peur des preuves.
Jusqu'à maintenant, oui. Myriam, je ne sais pas, vous l'avez rencontré comment cet homme?
Ah, alors, je l'avais rencontré une première fois en décembre 1992.
Ok.
Il me paraissait très très jeune, il avait 25 ans, bon, il ne me tirait pas du tout. Hein. Ensuite, c'est un ami à lui qui nous a...
Attendez, vous venez de me dire qu'il ne vous attirait pas, c'est ça?
Oui, au départ, non, je le trouvais vraiment gamin. Et vous savez que c'est toujours la première impression qui compte. Hein.
Oui.
Et comme c'est un manipulateur, il est revenu sonner à ma porte 3 ans après. C'est-à-dire que nous avons commencé à nous connaître en 93 sur l'insistance d'un ami commun. Donc un ami à lui qui fait partie de Mensa, puisque moi c'est là que j'ai rencontré dans une soirée Monsieur Joulin, si je peux le nommer.
Sans problème.
Si je suis accusée de diffamation, tant pis.
Vous n'êtes pas sous la... Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas sous une juridiction française quand vous parlez ici. Vous êtes au Canada.
D'accord. Bon, ben moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup plus confiance en l'étranger qu'en la France, parce que maintenant, les Français, je les connais très bien, je connais très bien les tribunaux et comment fonctionne la soi-disant justice ici. Donc, j'ai beaucoup de choses à dénoncer et je ne suis pas folle. Donc, j'ai subi 3 expertises qui reconnaissent que je suis tout à fait normale. Et la dernière, comme la première, demande à me donner, à me rendre mon enfant, la garde de mon enfant. Donc, il y a eu, dans la dernière expertise, quand même 37 pages.
Alors, en 93, vous le rencontrez, il vient sonner à votre porte, et bang, c'est fait, vous discutez avec de quoi, là? Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que vous tombez sous son joug, là, Myriam?
Non, c'est pas du tout comme ça, Ismaël. Voilà, au début, il était simplement étudiant, il essayait de passer des concours administratifs, donc il voulait plus particulièrement rentrer dans les impôts. Et puis c'est un jour, en 97, donc 3 ans après que je l'ai rejeté de ma vie, en 1997, il revient sonner chez moi par surprise avec un uniforme de policier, en me faisant croire qu'il avait changé. C'est là que je me suis fait avoir. Ça, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Ça, je peux vous dire que du jour au lendemain, vous pouvez voir votre vie détruite par une rencontre. Voilà. Donc, je lui ai laissé une deuxième chance. Je croyais effectivement que le fait d'avoir une profession, ça l'aurait fait peut-être mûrir, parce que là, bon, il avait 28, 29 ans, je crois, en 97, puisqu'elle est née en 68. Moi qui suis tellement gentille, je lui ai laissé une deuxième chance. Il m'a demandé en mariage, je ne voulais pas. On partait en vacances ensemble, il faisait semblant d'être très gentil. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un manipulateur à l'époque, je me laisse avoir. Il me met en rapport avec tous ses copains, policiers, tout ça. Je tombe enceinte, d'ailleurs. Il ne voulait pas de bébé, mais je tombe enceinte. Dans les mêmes temps, nous achetons une maison. C'est la maison dans laquelle je suis. Donc en 98, je suis tombée enceinte en mars 99. Et il ne voulait pas de bébé. C'est ça qui est très contradictoire. C'est que ensuite, il a demandé la garde uniquement pour se venger. Parce qu'au début, il ne voulait pas d'enfants. Il n'aime pas les enfants. Voilà, c'est juste
il n'aime pas les enfants. Alors bref, le mec c'est excusez-moi l'erreur, la grossièreté, le mec s'est vidé à quelque part.
C'est-à-dire que moi, on m'a expliqué, c'est ce que j'ai aussi découvert dans les livres sur le harcèlement moral, surtout ceux écrits par Madame Irigoyen, que j'ai eu au téléphone aussi.
Oui.
J'ai appris que ce genre de personne a toujours besoin d'une victime dans sa vie et à domicile. Donc, avant moi, en fait, c'était son frère. Son petit frère qui a 2-3 ans de moins que lui. Et les copains là-bas, à Bordeaux, dans le sud de la France, me disaient « on n'a jamais compris pourquoi il persécutait son frère comme ça ». Et effectivement, il a un frère qui est très gentil, avec lequel je m'entendais bien. Et mon enfant remarque d'ailleurs aujourd'hui que quand le frère est présent en vacances, sur place, il n'y a pas de sévices, ni d'enfermement à la cave, ni de maltraitance comme d'habitude, quoi.
Oui.
Donc, c'était donc la première victime de monsieur. C'est ça que je voudrais souligner. C'est que j'ai reconnu tout à fait son portrait dans les livres sur le harcèlement moral. Donc ensuite,
Mais est-ce qu'il y a un spécialiste dans votre entourage ou que vous avez consulté qui a vraiment réussi à émettre un diagnostic fiable et probable d'être possible présenté en cours? Est-ce qu'il y en a un qui a réussi à le faire?
Écoutez, moi j'ai vu beaucoup de médecins, de psychiatres, en même temps des pédopsychiatres bien sûr, des psychologues pour obtenir des attestations que me réclamaient les avocats. hein, parce que c'est pas moi de moi-même qui suis allée les voir au début, hein, les avocats avaient besoin de pièces,
okay.
Donc c'est pour ça que je suis allée les voir au début, hein. De toute manière mon père est psychologue, donc je sais très bien, je connais les psychologues, hein, donc je suis à l'aise avec eux. Ils ont reconnu effectivement, notamment madame Yvonne Poncet-Bonisol, qui a créé l'association de défense contre le harcèlement moral, qui a écrit aussi plusieurs livres, elle a témoigné pour moi. Elle a fait une attestation, je ne sais plus si je vous l'ai envoyée, Ismaël.
Oh, ben là, mon Dieu, j'en ai reçu beaucoup déjà, Myriam, mais je ne voudrais pas.
Alors,
non plus...
Je vous avais envoyé... Excusez-moi, je vous avais envoyé surtout celle d'Ariel Ada, qui est la psychologue de Mensa, qui a reconnu que les gens qui ont un certain niveau intellectuel ou qui sont doués, parce que je fais partie de Mensa, donc j'y peux rien, hein, j'ai quelques facultés intellectuelles, et donc monsieur m'avait repéré.
Quelques facultés intellectuelles. Cela veut dire quoi exactement, Myriam? Combien avez-vous en QI, par exemple?
Ben, je sais que je dois avoir 150, malheureusement je dirais, hein, c'est ce que je disais aux experts, pour moi ça m'a complètement
alors
desservi.
Pourquoi
c'est
un individu,
un pour,
je répète, là je vous pose cette question, pourquoi un individu qui a 150 de QI se ferait aussi bêtement avoir?
Oui. Justement, Ariel Ada, qui est la psychologue de Mensa, l'a mis dans son attestation et a parlé aussi ce problème dans un des derniers livres qu'elle a écrit. Donc elle m'a dit ensuite par téléphone qu'elle avait pensé à moi en écrivant ce chapitre. Donc les manipulateurs repèrent les personnes qui ont des dons qu'ils n'ont pas pour les vampiriser. Voilà, mais ils manipulent tout le monde et c'est pas parce qu'on est intelligent.
Mais si vous êtes si intelligente, si vous êtes si intelligente, Myriam, pourquoi vous êtes-vous fait avoir aussi facilement que cela, comme un jeu d'enfant pour lui?
Oui. Alors, je peux vous dire qu'on se laisse peut-être avoir une fois, mais après on ne se laisse plus avoir. En fait, c'est l'ignorance, je crois, qui nous fait tomber dans le piège. Hein, c'est l'ignorance. Moi, au début, je ne connaissais pas ces livres-là. J'avais entendu parler des pervers sexuels, mais pas des pervers mentaux. Les gens ne sont pas forcément au courant. Quand c'est la première fois que vous tombez sur une personne comme ça...
Les pervers
vous
sexuels,
très bien,
ok.
Il y a deux catégories de pervers et moi je ne le savais pas. Hein? Donc celui-là, c'est un pervers mental. Hein? Donc dès qu'on est rentré dans la maison, il a voulu faire chambre à part, il s'est comporté comme un gamin.
Uh-huh.
J'avais comme deux enfants et j'étais hyper gentille avec lui parce qu'il faut dire que j'étais amoureuse. Hein? C'est ça aussi, comme on dit toujours, l'amour rend aveugle. Hein? Donc à partir de là, l'intelligence ne joue plus. Vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne voyez que les sentiments. Puis moi, je suis hyper sincère, hein, dans mes relations. Donc moi, je voulais qu'il soit bien, je m'occupais de lui. On a des témoignages même de collègues policiers en ma faveur, hein.
Oui.
Je sais plus, je vous les ai envoyés. Bon, on a les preuves qu'à l'époque, je m'occupais très très bien de lui. J'étais pas méchante du tout et que j'ai été victime de violence uniquement parce que je n'avais plus d'économie à lui donner. Voilà. En fait, il visait que mon argent et je le savais pas.
Mais est-ce que vous l'aimiez? Voilà. Parce que les auditeurs nous réagissent énormément, là, Myriam, là, à cause...
D'accord.
Bon,
oui.
C'est sûr que c'est peut-être pour rire ou enfin, justement, mettre un sourire sur ce que vous nous dites en ce moment. On me dit ici, à cause que l'amour rend aveugle, Ismaël. Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que vous aimiez cet individu-là? Même si vous me dites que c'était un manipulateur, l'aimiez-vous? C'est ça, là, j'essaie de comprendre, là, ce petit bout-là.
Oui, oui, oui.
L'avez-vous aimé dans les premiers débuts, lorsqu'il est revenu 3 ans après cogner à votre porte?
Oui, c'est ça. Donc, il s'est montré sous un autre visage. Il a tout fait pour me séduire. Et les psys appellent ça, justement, la phase d'emprise.
Okay.
Donc, moi, j'ai cru que j'étais amoureuse, mais en fait, c'était une emprise psychique. C'est ça qui est dramatique. C'est que vous soyez intelligent ou pas, vous tombez dans ce piège d'emprise psychique. Et ça, les psychologues l'expliqueraient mieux que moi.
Je vous dirais, hein, Myriam...
Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine. Hein, donc,
ouais.
Je sais ce que j'ai vécu.
Ouais.
Je sais de quoi j'ai été victime. Je peux vous dire, j'ai très vite ouvert les yeux. Les médecins m'ont dit, en tout cas vous, vous ne faites pas comme certaines autres victimes qui restent 10 ans, 20 ans dans la même emprise.
Okay.
toujours victime à la maison. Vous, en tout cas, on voit que vous avez un bon état mental. Donc, on avait justement des attestations grâce à ça, parce que j'avais réagi très vite. J'étais mariée que 19 mois et il a vécu à la maison 2 ans. Hein? Voilà, et il est parti de force sur demande de sa hiérarchie parce que je n'hésitais pas à porter plainte et à le dénoncer, vous voyez? Voilà, et ensuite, eh ben, en représailles, on m'a enlevé mon enfant. Voilà, et là, aujourd'hui, j'en suis toujours à essayer de la sauver, de la défendre, de remuer le gouvernement, tout le monde, même à l'étranger, quoi. Là, j'en ai marre, je suis à bout. Voilà.
Ok. Ok, Myriam. Maintenant, la petite demoiselle. Alors, comment qu'elle s'appelle déjà? Je ne veux pas faire d'erreur.
Oui, c'est ce que j'allais dire là. Donc, ma petite Christelle, effectivement, j'ai entendu, je suis arrivée en cours dans la conversation avec Monsieur Ripo quand vous l'interviewez.
Oui.
Effectivement, elle vient d'écrire 6 pages parce qu'il y a une nouvelle loi qui demande aux juges d'entendre les enfants, qui reprécise en fait leur droit de choisir la résidence et de se faire écouter par des juges directement. Donc elle a écrit 6 pages et moi je peux vous les lire si vous voulez. Vous savez, c'est très rapide parce qu'elle écrit très gros. Ça vient d'elle-même, c'est vrai que ce sont ses paroles. Cette lettre a déjà été donnée à des policiers intègres, parce que je n'accuse pas tous les policiers. Heureusement, il en existe des intègres qui font bien leur travail. Elle a été auditionnée et filmée. Et ce policier, d'ailleurs, m'a confirmé, il a le même grade que Monsieur Joulin, hein, d'ailleurs.
Okay.
Il m'a confirmé que lorsqu'il doit faire une audition d'une mère qui est soupçonnée de non-présentation d'enfants, il ne la met pas en garde à vue. Là, il y a eu ouais. encore une faute policière.
Mais j'ai de la misère.
Et là, j'accumule des fautes policières.
Il y a quelqu'un qui, Myriam, il y a quelqu'un qui nous dit via le live@rockick.com, c'est clair, même avec 200 de QI, de quotient intellectuel, ça peut facilement arriver. L'intelligence intellectuelle n'a rien à voir là-dedans. Sauf que je suis loin d'avoir 150 ou 200. Je sais même pas. Je ne sais absolument pas combien j'ai. Mais c'est drôle. C'est drôle. Il n'y a pas une femme au monde qui pourrait s'approcher de moi et essayer de jouer cette carte-là. Parce que, je vous jure, là, Myriam, je vous le jure, vous le savez, on s'est déjà parlé plus d'une fois.
Oui.
Et je suis loin d'être, d'être l'individu à berner et à essayer d'embarquer dans une histoire à bracadabrante. Parce que la vôtre, pour ceux qui écoutent en ce moment, certains doivent se dire, bon sang, ça sort hors du commun, c'est spécial d'avoir affaire à un individu qui vous a manipulé. Vous nous dites, bon, j'ai tant de QI. Moi, je sais pas, j'ai encore, je suis honnête, hein, j'ai encore de la difficulté à croire que vous vous ayez fait embarquer comme ça, hein, Myriam.
Ben, oui, peut-être, mais j'ai réagi très vite. C'est vrai que j'étais amoureuse.
Ça a été quoi le laps de temps exact pour la réaction?
Alors, attendez. Il est revenu donc en octobre 97, sonner à ma porte.
93, que vous m'avez dit tout à l'heure.
Non, parce que, oui, bien sûr, nous avons commencé à faire connaissance à partir de décembre 92, l'année 93, et je l'ai rejeté de ma vie en été 94. Donc, effectivement, j'ai cru m'en débarrasser parce que vraiment, je voyais beaucoup de choses qui n'allaient pas, quoi. C'est ça le problème, c'est que il faut saisir les indices dès le départ quand on a affaire à des personnes comme ça, c'est ce qu'on nous reproche dans le domaine psychologique, c'est que on doit vraiment faire attention aux premiers signes. Et moi, avec ma gentillesse, bon, je suis toujours, de toute façon, prête à aider autour de moi, à faire en sorte que les gens aillent bien. Je me comporte comme une maman parce que j'ai été la grande sœur de 7 enfants. Vous voyez, et c'est ça qui joue beaucoup, c'est que je suis toujours en train de m'occuper des autres.
Okay.
Et donc lui, il m'avait repérée comme ça. Donc, il avait besoin de moi. Donc, alors, en 98, nous avons donc acheté une maison sur son insistance. Ça a été encore une deuxième erreur de ma part. Okay. Donc, à Pâques 98. On a commandé
alors,
une maison et après, je ne pouvais plus tellement faire marche arrière.
On va récapituler tout de suite, le Myriam, là, pour pas perdre les autres, parce que je veux être sûr que les auditeurs saisissent ce que je comprends jusqu'à maintenant. Alors, ce qui veut dire que la première fois qu'il vous a rencontré, vous l'avez trouvé gamin. Et ça s'est passé quand exactement?
Le 12-12-92, hein, c'est facile 12, à retenir.
Alors, 12-12, oui, 92. 12-92. Parfait. Maintenant, 3 ans après, ce qui veut dire que 3 ans après, ça fait...
Non, nous nous sommes fréquentés jusqu'en été 94, hein, je vous avais dit. Hein. Donc, c'est à partir de l'été 94 qu'il faut compter 3 ans.
D'accord.
Moi, je croyais ne plus jamais le revoir. Il a sonné à ma porte en octobre 97. Hein?
Ah, et vous vous êtes fréquenté, pourtant, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en 92, vous le trouviez gamin.
Ben, c'est pas ça, c'est que on n'est pas sortis ensemble tout de suite. Là, il faudrait en fait que je vous renvoie les premiers documents, parce que moi, on m'avait dit d'écrire tout pour ne pas garder tout en mémoire. L'association contre le harcèlement moral insiste beaucoup pour que les victimes écrivent.
Oui.
Il faut tout mettre par écrit. C'est ce qu'elle m'a mis d'ailleurs dans l'attestation, parce que ça m'a été retouché ensuite par la justice que j'ai tout écrit.
Ce qui veut dire que, Myriam, ce qui veut dire que. En le 12-92, vous avez commencé à entretenir une relation avec lui quand même. C'est bien ça?
Non, à partir de 93.
Alors, à partir de 93, vous avez eu une relation avec lui qui était basée sur quoi? Le sexe? Qui était basée sur quoi exactement? Qui était basée sur les finances, le travail? Quels étaient les points qui a fait que vous avez changé d'idée et vous vous êtes dit « Ah, mais il a quelque chose d'intéressant, c'est pas un gamin tant que cela ».
Non, non. Alors, en fait, son copain qui nous avait présenté, avait son appartement en travaux à Paris et monsieur venait régulièrement visiter son copain depuis plusieurs années. Uh-huh. Et donc là, à ce moment-là, il avait son appartement en travaux et ils m'ont demandé pour que j'héberge. Monsieur. Ah. Et moi, comme une idiote, hein, j'ai envie de dire comme une idiote, hein, c'est vrai, et ben j'ai accepté. Et je l'ai accueilli chez moi, donc vraiment sans aucune arrière-pensée, c'était vraiment pour dépanner quelqu'un. Donc au début, on n'a pas du tout eu de relation, hein, c'était copain-copain, hein, voilà.
C'était copain-copain, après, ok.
Ben bien sûr, ben oui.
Alors vous, la seule chose qui se passait, c'est que vous êtes rencontrés de temps à autre sur un banc de parc en vous tenant la main, c'est tout?
Ben non, même pas. Non, je veux dire, ce genre de personne, au contraire, il veut pas de contact. Main dans la main comme ça, c'est très difficile pour ces gens-là. Ils sont pas affectueux, vous voyez. Je sais pas comment expliquer ça. C'est petit à petit, il m'a embobiné, il m'a écrit des lettres d'amour ensuite, enfin...
La première fois, Myriam, que vous avez eu une relation sexuelle avec lui, ça date, ça remonte à quand exactement? La première, là, ok?
On rappelle plus. Ben, je peux pas vous dire la date, hein, franchement, là...
Sans me dire la date, mais exactement, à quel moment avez-vous eu une relation sexuelle pour la première fois avec lui?
Oh là là, c'est difficile à retrouver, ça. Il faudrait que je voie mes notes, vous savez... il faudrait que je retrouve tout ce que j'ai écrit des débuts qu'on m'avait demandé d'écrire pour faciliter la compréhension des avocats, comment tout a commencé et ensuite comment ça s'est dégradé une fois qu'il a habité dans la même maison.
C'est drôle, Myriam, moi je pourrais vous dire exactement avec chaque femme, avec chaque copine avec qui j'ai eu une relation sexuelle, je peux vous dire pratiquement l'année et le mois que ça s'est passé.
Ben écoutez, moi, pour pouvoir continuer à vivre,
okay,
je suis obligée de sélectionner ma mémoire. Ah, ouais. Donc, il y a des choses que je suis obligée de mettre de côté et de faire exprès d'oublier. C'est peut-être ça aussi la force, finalement. Il y a des choses comme ça, je ne veux pas m'en rappeler. Bien sûr, vous me posez une question, je peux retrouver ça par écrit, il n'y a pas de problème. Je vous dirai même, je vous lirai ce que j'ai écrit, il n'y a pas de problème.
Oui.
Je sais que c'est en 93, et je peux vous dire qu'il m'a un peu forcé aussi. Donc, il m'a forcé, c'était pas prévu du tout comme ça. Hein? Voilà, donc,
alors là, le souvenir...
La première relation a été
en 93.
Forcée, j'ai pas peur de le dire. Hein,
ok. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est ça. Et ça s'est passé comment? C'était quoi la situation? Et est-ce que vous vous souvenez d'environ de ce qu'il vous a dit pour que vous vous adonniez à lui, quoi?
Ben non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Je sais que on était dans deux pièces différentes et qu'au milieu de la nuit, il est venu me rejoindre alors que je m'y attendais pas, quoi. Voilà. Bon, ça s'est fait comme ça.
Et il vous a forcé. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous forcer à avoir une relation sexuelle avec lui?
Ben non, j'ai pas trop envie de décrire. J'ai pas trop envie là.
Ah.
C'est difficile à expliquer pour moi. Parce que je trouve que c'est pas le centre du problème, là, aujourd'hui. Moi, je me bats pour mon enfant et j'essaie d'oublier ma relation avec monsieur, vous voyez.
Myriam, on oui, a Christian, on a, j'ai aussi mon co-animateur, Christian Dallard, qui est à côté de moi. Il y a une question pour vous, Myriam.
Le problème, Myriam, c'est que c'est, je sais que ça doit être difficile à décrire de la façon, peut-être, que l'homme en tant que tel vous a forcé à avoir une relation sexuelle avec vous. Mais notre travail ici, c'est justement de dénoncer ce genre d'individu qui vous a peut-être pris, qui vous a sorti. Comme vous semblez le spécifier, vous semblez dire que il est venu vous rejoindre dans la pièce pour avoir une relation sexuelle mais forcée. Oui. Mais c'est justement, c'est sûr que c'est peut-être difficile pour vous d'en parler, mais c'est justement de le faire. Pourquoi? Pour dénoncer ce genre d'individu-là.
Ah bon? Oui, ben moi, il m'avait avoué qu'il n'avait jamais eu de copine auparavant, hein, et qu'il voulait avoir sa première relation avec moi parce que j'étais la femme de sa vie, etc., etc. Ensuite, il y a eu le rejet de ses parents. Ils voulaient absolument pas entendre parler d'un mariage de leur fils. Ils voulaient garder leur fils pour eux. Et il y a eu vraiment la découverte pour moi d'une mère possessive et castratrice, comme disent les psys. Moi, je reprends leur terme, tant pis, hein. Et donc, c'est ce genre de relation qui est comme un peu une relation de complexe d'Oedipe, vous voyez, qui empêche ensuite le garçon d'avoir une relation normale avec une femme plus tard. Ça, j'ai découvert ça au fur et à mesure, hein. Moi, au début, je savais pas. Il changeait de visage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ouais. Mais c'est parce qu'on essaie, ce qu'on fait là, je vous pose cette question-là. Christian vous a posé la question, Myriam, dans un but bien précis, c'est d'identifier exactement comment ces individus s'y prennent. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font exactement pour arriver à leur fin? Et c'est vraiment le seul objectif. Je veux pas savoir exactement c'était quoi la position sexuelle qu'il a eue avec vous durant la relation qu'il a eue la première fois. Ça, je m'en contrefiche complètement. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qu'il a fait pour vous séduire ou enfin réussir à avoir une faveur sexuelle de votre part et que vous vous écartiez comme ça, bang, et ok, parfait, c'est beau, je me lance. Voilà, c'est ce que je désire savoir et rien d'autre. Pourquoi avez-vous accepté? Parce que vous avez toujours le choix de dire non. Je veux bien croire, ok, qu'il est un manipulateur extraordinaire de par vos dires, mais il est nécessaire de vraiment mettre le doigt sur ce que le mec a pensé et qu'est-ce qu'il a fait, parce que c'est ça que j'essaie de faire là, ok, c'est de rentrer dans son cerveau et aussi de voir exactement comment il s'y est pris pour vous amadouer. Voilà.
Oui, mais il y a qu'un petit pourcentage de manipulateurs de ce genre, hein, des manipulateurs pervers. Hein. Donc, même si vous essayez de comprendre les viols en général, tous les violeurs ne sont pas des manipulateurs pervers comme lui. Donc, lui, il agit beaucoup par la parole.
On parle de manipulateur ici, je n'ai pas parlé d'un violeur du tout.
D'accord, oui. Écoutez, les manipulateurs pervers... arrivent à leur fin beaucoup par la parole, par leur voix.
Ouais.
C'est comme une sorte d'hypnose. Et moi, je ne reviens pas aujourd'hui comment j'ai pu tomber dans ce piège. Parce que c'est vrai que d'habitude, je ne me laisse pas faire comme ça facilement.
Ok.
Dans toutes sortes de situations, hein, je dis bien. Mais là, qu'est-ce qui a fait en sorte, je n'arrive pas à vous expliquer.
Ok.
C'est par la parole qui m'a séduite, pas par autre chose.
D'accord.
Hein, parce que c'est vrai qu'il a un physique de gamin, on dirait même un gamin inoffensif qui ferait pas de mal à une mouche, alors que c'est un dangereux pervers. C'est quelqu'un qui aujourd'hui manipule la police, manipule les tribunaux, est capable de très bien s'exprimer en audience pour tourner la tête des juges, de se faire passer pour la victime. Attendez, mais je suis tombée sur quoi là? J'ai l'impression d'être tombée sur le diable. Maintenant, il s'en prend à notre enfant. Moi, j'ai jamais voulu faire obstacle à ses relations avec son enfant, mais lui aujourd'hui, il fait obstacle à mes relations avec elle.
Oui.
Donc, c'est pas un vrai père, c'est quelqu'un qui veut se venger, qui prend un enfant comme une marchandise.
Ok. Hein? Et de 93 jusqu'à 97, il s'est passé quoi? ça a été le vide. Est-ce qu'il y avait encore une relation avec cet individu?
Ah ben non, depuis été 94, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein,
oui.
Moi, je voulais plus l'accueillir chez moi. Je voulais plus qu'on passe des vacances ensemble. Je voulais plus de le fréquenter. Je voulais rencontrer quelqu'un d'autre. Je voulais l'éliminer de ma vie. J'avais vu vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et après, 3 ans après, eh bien, il est revenu sonner à ma porte en faisant croire par l'interphone que c'était une enquête de proximité.
Okay.
Vous savez. Avec une voix, il se faisait passer pour un policier. Et puis, moi, j'avais reconnu une voix que je connaissais, mais je n'arrivais pas à définir qui. Alors, je descends et je le vois, lui. Je le vois, lui, avec un uniforme. Et il me faisait... Alors, on a discuté dans la rue, il me faisait croire qu'il avait changé. Il m'a demandé si personne ne m'avait demandé en mariage. Il m'a sorti le grand jeu. Il était tout content de m'avoir retrouvée. Il a dit que c'était vraiment une coïncidence heureuse qu'il ait été muté, justement, à quelques kilomètres de chez moi, dans la région parisienne, alors qu'il venait de Bordeaux, parce qu'il avait réussi le concours à Bordeaux. Enfin, bon, il m'a dit, tu vois, j'ai raté tous les concours, sauf celui de la police. C'est amusant, hein. Voilà.
Et vous êtes encore une seconde fois tombé dans le panneau.
Oui.
La première fois, vous aviez pas compris, il a fallu que ce soit une deuxième.
Non, c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment cru qu'il avait changé. C'est vrai, hein. Parce que tout le monde, d'ailleurs, aux alentours de 30 ans, de la trentaine, devient beaucoup plus adulte. Bon, je crois que c'est à peu près tout le monde, hein. Bon, je sais pas. Moi, j'ai raisonné comme ça.
Okay.
Je me suis dit, peut-être, je vais lui laisser une seconde chance. Il sera peut-être différent. Il sera peut-être moins bête, hein, parce qu'il y avait beaucoup de bêtises, ne serait-ce que pendant les vacances, les quelques jours qu'on passait ensemble. Il avait aussi des réflexions bizarres. Enfin bon, il y avait beaucoup d'anomalies dans son comportement. Et je mettais ça sur le compte de l'immaturité.
Okay.
Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est beaucoup plus grave que ça.
Par exemple, je pourrais vous dire... Bon, vous le traitez de manipulateur. Je vous crois, sur parole. Mais de par les ce que vous m'aviez envoyé, que ce soit en PDF ou autre, je l'ai vu, je l'ai lu. OK, ça, c'est une chose. Mais vous, Myriam, est-ce que vous croyez que vous auriez peut-être, par pur hasard, le syndrome de la femme battue?
Ah, ça existe, ça? C'est quoi, ça?
Oui, c'est un réel syndrome. C'est le genre d'individu...
Ah bon?
Oui. Vous avez jamais entendu parler de ce syndrome?
Non. Allez-y, je vous écoute.
Je vous explique, c'est simple comme ouais. Bonjour. Le syndrome de la femme battue, c'est simple. C'est même si, par exemple, elle se ferait dégrader, qu'elle se ferait rabaisser, qu'elle se ferait battre, elle serait prête à coup sûr et même pratiquement à prendre ses deux jambes à deux coups, là, au cou, là, hein, et partir à la course vers l'individu qui l'a blessé à plusieurs reprises. Est-ce que vous croyez rentrer dans ce créneau, quoi?
Ben, écoutez, si j'étais comme ça, j'aurais pas été au commissariat.
Mais deux fois, Myriam.
Ben non, mais attendez, Ismaël, j'étais pas victime de violence avant. Vous avez pas compris, en fait, les violences...
C'est pas obligé, attention là, Myriam, ce n'est pas obligé d'être un coup de poing ou de blesser dans... ce n'est pas obligé d'être physique, ça peut être par les paroles aussi, ok? Ça peut être par la manipulation, comme vous me le dites en ce moment. Alors, vous seriez peut-être le portrait type du syndrome de la femme battue, qu'on appelle.
Au contraire, hein, je peux vous dire que je me défends assez pour montrer le contraire. Mais en tout cas, avant, il n'était pas violent ni dans ses paroles, ni dans ses gestes. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Ça s'est déclenché comme ça, brutalement, quand il m'a dit en septembre 2000, alors qu'on était en train de préparer le mariage religieux, on se dirigeait vers Bordeaux, il m'a dit dans la voiture que je n'étais plus intéressante financièrement. Ça m'a complètement ouvert les yeux et j'ai dit au prêtre que j'étais tombée dans un piège. C'est le cardinal de Bordeaux, enfin c'est le chanoine Lavergne, hein, il s'appelle, hein, donc il a témoigné pour moi ensuite et il a dit que c'était la première fois dans sa vie, c'est un vieux prêtre, hein, donc c'est la première fois que ça arrive qu'un mariage religieux soit annulé quelques jours avant. Il a écrit que j'étais tombée dans un piège.
Ok.
Donc aujourd'hui, moi, je me sens pas mariée. Vous voyez, j'ai été mariée civilement pendant 19 mois. C'est lui qui l'a voulu pour les impôts. Il m'avait dit, hein, franchement. Hein. Et donc, on s'est mariés à la va-vite entre deux témoins. Pour moi, c'est pas ça un mariage. Hein. Moi, je suis tombée sur un imposteur. Voilà. Et je peux vous dire qu'avant, j'étais pas victime de violence conjugale. En tout cas, c'est la première fois dans ma vie que ça m'arrive. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et puis, ça m'arrivera plus jamais. Hein. Alors là, on se fait peut-être avoir une fois, mais quand on est intelligent, on ne se fait pas avoir deux fois. Hein. D'ailleurs, il le sait, c'est pour ça qu'il s'acharne sur moi. Hein. Je me laisse pas faire.
Ok.
Ah oui, non, mais attendez. Le syndrome de la femme battue, à mon avis, c'est pas ça. Hein.
C'est sûr que c'est ça. Je pourrais vous envoyer même la définition. De recommencer une deuxième fois, Myriam, je trouve ça spécial. De pas avoir compris la première et de se retaper une deuxième et de croire qu'il a changé, c'est ça que je trouve étrange. Mais il reste pareil qu'au stade où est-ce qu'on en est rendu, là, Myriam. La petite demoiselle, elle est rendue entre les griffes de son père, c'est ça?
Ben oui, régulièrement d'ailleurs, hein, même régulièrement. Après des certificats médicaux. Oui.
Porte de sortie, est-ce qu'il y en a une?
J'ai pas entendu ce que vous disiez, ça a coupé, excusez-moi.
Est-ce qu'il y a une porte de sortie à l'heure où est-ce qu'on se parle? Est-ce que la demoiselle va être obligée de continuer à aller rencontrer son père, même si, parce que tout à l'heure, Monsieur Ripo nous a clairement identifié qu'elle avait écrit une lettre, c'est bien ça, et qu'elle avait demandé de remettre cette lettre-là à monsieur, au président, que ce soit remis au président de la France, Nicolas Sarkozy. Alors, oui. Comment qu'elle s'appelle déjà?
Christelle.
Christelle. Alors, Christelle, est-ce qu'elle aura la chance un jour de cesser de voir cet individu qui manipule les gens comme ça?
Ben, il paraît que les enfants, en grandissant, d'abord, ils peuvent choisir à un moment donné.
À quel âge? À partir de quel âge?
Ben, je crois qu'en France, c'est seulement à 12 ans, enfin, je sais pas. Puis ça dépend des juridictions. Il y a des juges qui veulent bien entendre les enfants à partir de 9 ans. Enfin, on sait pas, c'est un peu flou tout ça. Et même à 12 ans, on n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment entendus. Enfin, en France, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, vous savez. Hein. Donc, mon enfant, aujourd'hui, est résignée. Elle n'arrête pas de se plaindre, mais elle est résignée. Elle sait qu'elle est obligée d'aller retrouver son père et de subir éventuellement des violences pour empêcher que sa maman aille en prison. Voilà. On en est arrivé là, c'est que quand les mères voudraient défendre leurs enfants et les protéger, eh bien, elles sont accusées de non-présentation d'enfants. Okay. Alors, il a déposé de multiples plaintes contre moi, mais qui n'ont jamais abouti. Donc, il a bien du mal, le pauvre. Enfin, bref.
Myriam, merci. J'aimerais ça qu'on puisse continuer comme ça, de temps à autre, à avoir un son de cloche de ce qui se passe, si ça avance ce dossier, si vous allez réussir à récupérer un jour une liberté d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en cage présentement. Est-ce que je me trompe?
Ben oui,
ou enfin, le sentiment, vous n'êtes pas en cage, mais j'ai le sentiment qu'il y a comme une emprise alentour de vous et qui vous nuit, c'est ça?
Bah écoutez, si je me suis surnommée résistante,
oui.
C'est pas pour rien, c'est que je résiste effectivement contre une emprise, un enfermement qu'on voudrait mettre autour de moi, même dans ma propre maison. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être en prison, vous savez, pour être enfermé. Mais ils voudraient m'enfermer dans un système où il n'y a aucune porte de sortie. Donc moi, je cherche par tous les moyens à me sortir de ça et à sortir mon enfant de cette situation. Maintenant, si vous voulez, je peux vous lire sa lettre.
Certainement. Oui, s'il vous plaît, on l'écoute.
Hein? Alors, voilà ce qu'elle a écrit au mois d'août. Je veux parler devant un juge parce que personne ne veut m'écouter. Depuis longtemps, je dis que j'en ai marre d'être chez mon père et que je veux revenir avec maman dans ma maison à Comblaville. J'écris même ça dans mes cahiers de l'école. C'est trop long de me sauver de mon père. Maintenant, j'ai grandi et je sais écrire, mais je ne veux pas lui montrer ma lettre, sinon il va encore me taper et m'enfermer. Il est méchant avec moi et j'ai peur de lui. Je voudrais qu'il ait un accident de voiture quand je suis pas dans la voiture et je serai débarrassée de lui. Ou alors qu'un gros rocher lui tombe sur la tête, après je serai tranquille avec ma maman. Quand je suis chez mon père dans son immeuble, je m'ennuie. Il ne s'occupe pas de moi, et il joue tout le temps sur son ordinateur. Il me dit de regarder la télé même la nuit. Il n'a pas le temps de s'occuper de moi, alors il me met toujours à la garderie et à l'étude et à la cantine. Je me sens abandonnée. Avec maman, je n'y allais jamais car elle a le temps de s'occuper de moi. Je préfère vivre dans ma maison et pas dans un appartement. Avec maman, j'ai tous mes jouets. Mon père ne veut rien m'acheter, ni mes fournitures pour l'école. Alors je demande à maman et elle m'achète tout ce qui me manque. En plus, je voudrais faire de la danse et mon père ne veut pas. Il me met au centre de loisirs les mercredis alors que je voudrais être avec maman. Maman est toujours gentille avec moi, elle me tape jamais. Lui, il me fait beaucoup de mal. J'ai toujours mal à la tête à cause de lui. Et chez les parents de mon père à Bordeaux, je suis encore plus malheureuse. Il m'enferme à la cave dans le noir et déjà, la mamie m'a attachée sur une chaise avec les mains derrière
le dos. Elle a quel âge, Christelle?
Elle a 7 ans et demi et ça c'est une histoire qui est arrivée à l'âge de 5 ans. Et je l'ai fait auditionner par des gendarmes à ce moment-là. Ils m'ont donné leur carte de visite. Ils ont dit qu'ils acceptaient de témoigner des paroles de mon enfant. D'ailleurs, elle avait dit qu'on voyait la trace du lien sur ses poignets après. Hein.
Est-ce que il serait possible d'avoir une copie de cette lettre exacte? Est-ce que c'est sa griffe? Oui.
Vous voulez dire la lettre que je suis en train de vous lire?
Oui.
Ben, c'est son écriture, bien sûr, et elle est signée. Bien sûr, oui, c'est son écriture et c'est ses paroles qu'elle a toujours dit depuis 2 ans.
Okay.
Mais à l'époque, elle écrivait pas comme ça. Hein. Donc là, elle avait la possibilité de demander à au juge en général, hein, n'importe lequel, d'être entendue directement parce qu'elle en a marre. Elle trouve que c'est trop long, cette situation.
Mais alors, est-ce que c'est son écriture? Est-ce que c'est elle qui a écrit cette lettre-là? Est-ce que c'est l'original de cette demoiselle?
Oui, là je suis en train de vous lire l'original, je l'ai entre les mains, je l'ai même photocopié plusieurs fois pour ne pas qu'on me le vole, mais j'ai du mal à déchiffrer parce que c'est vrai qu'il y a des fautes d'orthographe et c'est une écriture d'enfant. Hein. Donc je continue, elle m'a déjà attachée sur une chaise avec les mains derrière le dos, point. Ils m'ont tapé sur la tête et plaint que j'ai déjà dit. Elle voulait mettre et plein de choses, je crois. Ils m'empêchent de téléphoner à maman, et quand elle appelle, ils font croire que je ne suis pas là. Ils ne veulent plus que j'aie une maman. Ce n'est pas mes grands-parents, c'est les parents de mon père. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai déjà dit à maman, car elle l'a écrit dans plein de pages, et ça me ferait mal au cœur. Les éducatrices n'écrivent pas la vérité. Et quand je parle aux policiers, aux gendarmes, aux avocats, aux docteurs, à la dame expert, ça ne change rien et je ne suis toujours pas sauvée. C'est pour ça que je veux parler devant les juges et qu'on me rende à maman pour toujours. Avant, j'allais voir mon père au point rencontre et c'était bien mieux. Des dames le surveillaient pour qu'il ne me fasse pas de mal. En plus, mon père et ses parents n'arrêtent pas de dire du mal de maman et c'est toujours des mensonges. Quand je serai grande, je serai dégoûtée de mon père parce qu'il m'a empêchée d'être avec maman alors qu'elle s'occupait toujours bien de moi et pas lui. Je pleure souvent parce que maman me manque. Christelle. Voilà.
Ok.
Voilà, vous savez sa pensée, vous savez ce qu'elle a en tête et dans quel état d'esprit elle est partie à l'école fin de matinée. Voilà.
Myriam, je vous remercie d'être venue discuter avec moi aujourd'hui, de nous avoir exprimé.
C'est moi qui vous remercie, Ismaël, parce que ça me fait plaisir de pouvoir dénoncer publiquement ce qui nous arrive depuis plusieurs années.
J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui évolue. C'est ce que j'aimerais qu'il soit possible dans les mois à venir, dans le fond, Myriam. C'est bon?
Oui, bien sûr. Oui. Bah, vous savez, il arrive toujours des choses nouvelles. Hein, donc, c'est une vie très mouvementée que j'ai. Et tous les mois, il se passe des choses. J'ai toujours beaucoup de choses à raconter. Et là, je vous ai même pas tout dit. Y compris les réponses que je reçois du ministère de l'Intérieur, de l'IGPN, du gouvernement, etc., etc. J'ai tout un dossier de réponses dont j'aurais pu vous parler aussi.
Tout à fait. Myriam, je vous remercie. On se reparle très bientôt, ça c'est sûr et certain, pour avoir peut-être un peu d'autres ingrédients pour à rajouter à la sauce qu'on vient de qu'on commence à préparer ensemble dans les mois qui suivent. Myriam, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Oui, merci beaucoup Ismaël, vous aussi.
Au revoir Myriam.
Au revoir.
Salut bien. Alors, c'était Myriam, alias Résistante, que vous avez entendu. Christian, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ce que j'en pense, ça reste encore vague, parce qu'il nous faut, d'une certaine façon, plus de preuves, des
affaires
comme ça. Parce qu'à un moment donné, ce qui était bizarre, c'est que oui, on labourait de questions, les affaires dans la main, mais Il y a, dans certains endroits de la conversation, elle semblait un petit peu mêlée.
Oui.
OK, vraiment.
Le gars, il est dans merde, en esti.
Oui, ça, c'est clair.
Lui, il est dans la merde la plus totale.
Il est évident que ça arrive.
Oui. Patrick, c'est lui, il a entendu. Patrick a écouté aussi ce qui s'est passé. Je sais pas comment tu perçois ça, toi, Patrick?
Elle est poignée en tabarouette, la madame. Hein?
Elle est poignée dans la marde, là. Oui. Elle est dans la marde, en crisse, là. Ça n'a pas d'allure, là. Le gars, c'est un hostie de fou. Mais tout à l'heure, il y avait Wonder Chris qui me criait par la tête. Hey! Il me criait par la tête. Il me disait des choses très gentilles, d'ailleurs. Je salue Wonder Chris qui m'a traité de putain de couillon. il m'a traité de putain de couillon parce qu'il sentait dans ma voix, là, comme du scepticisme, là, quelqu'un de sceptique, là. Moi, je suis Saint Thomas, là. Je suis comme ça, OK, là? Écoute, c'est quand même rocambolesque comme histoire. C'est invraisemblable.
C'est ce qui fait qu'on demande quand même une copie de la... Si on peut,
la lettre.
Bien sûr, avoir une copie de la lettre. Puis peut-être avoir un petit brin de causette avec les hommes de l'eau ou la juge.
Tout à fait. Et s'il est possible, on reste en contact avec Myriam. On va essayer aussi de discuter avec la petite demoiselle Christelle. OK? Okay. On va essayer de parler avec la petite fille. Justement, à savoir, crime, qu'est-ce qui se passe? Comment tu perçois ça? À voir vraiment, parce que là, la lettre qu'on vient de se faire lire, là, attends, la fille, elle a 7 ans et demi, là.
Elle avait 5 ans quand elle a écrit. Ben, je pense.
Non, elle l'a écrit à 7 ans.
C'est ça, elle l'a écrit à 7 ans.
Exactement.
C'est bon.
Alors, non, attends, pardon, que là, j'aurais fait, wow, j'aurais pas cru ça, là. Oui, tout à fait.
Un petit brin de cause.
Sauf que, je sais pas si... et plusieurs personnes qui écoutent en ce moment, là, si sur les milliers de personnes qui écoutent, là, je souffre.
Ben, il y a certains de nos auditeurs qui souffrent du scepticisme.
Et Colin.
Il y en a qui disent, parce que moi, je suis convaincu. Ben, je suis convaincu.
Y a
que ça arrive.
Il y a de quoi de croche. Il y a de quoi de croche dans cette histoire-là, mais j'essaie de comprendre. Rockkick.com